Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Aujourd'hui sera un voyage spirituel, Didier.
Ah.
Oui, à travers les différents courants du bouddhisme. J'ose.
Ok, oui, c'est pas facile.
Et c'est dans cette émission, donc l'épisode 21 déjà. Et okay. Je vous parlerai aussi de son terrible enfer du bouddhisme,
oui,
qui est bien peu connu,
j'avoue,
mais
pas
pourtant
moi.
Bien réel.
D'accord, ok, tu vas nous expliquer tout ça alors.
Exactement. Et en deuxième partie, Didier, nous reviendrons au plaisir terrestre avec toi, puisque tu vas nous expliquer ce que sont les petits déjeuners en Asie.
Oui, on revient vraiment dans quelque chose de plus terre à terre et quotidien.
Oui, et d'agréable.
Oui, c'est bien.
Après l'enfer...
Voilà, le réconfort. Donc, pour commencer, avant l'enfer, s'il te plaît Corinne, est-ce que tu pourrais nous rappeler comment est né le bouddhisme et par la suite ses différents courants? Refaisons le point.
Je vais faire un petit point.
S'il te plaît.
Alors, le bouddhisme est né en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ avec Siddhartha Gautama,
d'accord,
un prince qui va renoncer à sa vie de luxe pour comprendre la souffrance humaine.
D'accord.
Après des années de méditation, il va atteindre l'éveil et deviendra le Bouddha, qui veut dire l'éveillé, et enseignera la sagesse de la voie du milieu pour que cesse la souffrance.
Eh bien.
Alors, au fil des siècles, le bouddhisme s'est divisé en plusieurs courants. Le Theravada, la voie des anciens, en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, en Thaïlande et en Birmanie.
D'accord.
Le Mahayana, le grand véhicule, qu'on appelle aussi, pratiqué en Chine, au Japon et en Corée. Et le Vajrayana, véhicule de diamant, prédominant au Tibet, au Bhoutan, au Népal et en Mongolie, et dont le chef spirituel est le Dalai Lama.
Ah, ok.
Donc, en fait, le Dalai Lama est le chef spirituel du Vajrayana,
oui, pas de tous les courants, d'accord.
Exactement.
Okay, je comprends.
C'est voilà, il est pas le chef, il y a pas forcément de chef spirituel dans les autres courants. Alors le bouddhisme n'est donc pas homogène, mais offre un socle commun d'enseignement avec des interprétations et des pratiques différentes.
D'accord. Bon alors commençons par qu'est-ce que le bouddhisme Theravada.
Alors voilà, c'est le plus proche des premiers enseignements du Bouddha, Didier.
Ah bien.
C'est le fameux canon Pali, l'un des plus anciens textes bouddhiques. Alors le Pali, c'était la langue qui était utilisée.
D'accord.
Et l'idéal spirituel du Theravada est celui d'un être qui, par sa discipline, la méditation et sa sagesse, va parvenir à l'éveil et va se libérer définitivement du cycle des renaissances, le samsara.
Ok.
Alors la pratique du Theravada met l'accent sur la vie monastique. La méditation de pleine conscience, on en parle beaucoup quand même.
Oui, c'est vrai.
La compréhension du phénomène de l'impermanence et l'absence de soi, c'est-à-dire qu'on se met en retrait en tant qu'individu. Alors, il y a 5 préceptes à respecter. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de conduite sexuelle nuisible, ne pas mentir et ne pas consommer de drogue pour entretenir des relations basées sur la bienveillance.
Bon, ça me va plutôt tout ça, moi.
Alors, sa pratique se fait au quotidien et consiste à faire de ses gestes ordinaires des occasions de réflexion pour vivre en conscience dans des actions comme marcher, manger, travailler, parler et être attentif à sa propre respiration, aux sensations de son corps et à ses états mentaux. Et tout ça, ça permet de reconnaître ses émotions sans se laisser emporter, Didier.
Très bien.
Donc ça, c'est le bouddhisme Theravada.
D'accord. De toute façon, on va continuer alors sur notre petit chemin. Le bouddhisme Mahayana, pardon.
Oui.
En quoi est-il différent du Theravada, justement?
Alors, le Theravada, c'est le petit véhicule.
Oui.
J'ai oublié de le dire.
D'accord.
Donc,
et là,
le Mahayana, c'est le grand véhicule.
Grand véhicule, ok.
Qui apparaît quelques siècles plus tard en Inde aussi, avant de se diffuser largement en Extrême-Orient. Alors, il offre une vision plus inclusive. L'éveil est potentiellement accessible à tout le monde. L'idéal spirituel du Mahayana est celui du Bodhisattva, on en a déjà parlé. C'est un être qui fait le vœu de retarder sa propre libération afin d'aider tous les autres êtres à se libérer de la souffrance. Alors, on pourrait dire que ce sont des saints.
D'accord.
Ils sont presque atteints.
L'être suprême, je sais pas comment on peut dire.
Voilà, c'est ça, oui. Mais ils se sont arrêtés avant pour rester auprès des humains et les aider.
D'accord.
Voilà, c'est ça les bodhisattvas.
Ok.
Et ce courant a introduit de nouveaux textes qu'on appelle Sutra Mahayana Et il a développé des concepts comme la compassion universelle et la vacuité, qui enseignent que tous les phénomènes sont dépourvus d'existence propre et que rien n'est permanent. Mmh. Alors c'est encore une petite variante du concept de l'impermanence.
Oui.
Et le Mahayana comprend de nombreuses écoles telles que le Zen, la Terre pure ou le bouddhisme de Nichiren au Japon. Mmh. Alors dans la Terre pure, c'est en Corée.
Okay.
Et le Zen, il y en a un peu partout. Et en Chine, ça s'appelle le Chan, je crois, en Chine.
D'accord.
Alors, dans la vie quotidienne, la pratique Mahayana est centrée sur la compassion qui cultive l'intention d'agir non seulement pour son propre bien, mais pour celui de tous les êtres.
D'accord, très bien. Alors, continuons notre petite route. Oui. Alors, et le Vajrayana.
Le Vajrayana, ou le véhicule de diamant.
Alors, on passe au diamant.
Oui, on passe au diamant. Okay. C'est une branche du Mahayana avec des pratiques et des méthodes spécifiques. Il se caractérise par l'usage de rituels, de mantras, de gestes symboliques et de visualisation de divinités pour méditer. Donc c'est un peu différent que de la méditation de pleine conscience. Et ainsi se transformer pour atteindre l'éveil en une seule vie, plus rapidement que dans les autres courants. Alors le rôle du maître spirituel, donc le lama, y est central, car la transmission directe des enseignements est indispensable.
D'accord.
Alors le bouddhisme tibétain, avec ses différentes écoles, est la forme la plus connue du Vajrayana. Alors au quotidien, le pratiquant récite des mantras, médite à travers des visualisations, fait des prières, oui, etc. Alors les actes ordinaires sont aussi comme des offrandes, comme dans le Theravada, qui sacralise la vie quotidienne, l'essentiel étant l'intention, c'est faire de chaque moment de sa vie une étape sur le chemin de l'éveil pour soi et pour les autres.
Très bien.
Bon, alors les différences sont quand même assez subtiles.
D'accord, ok.
Je trouve.
Alors on parle aussi souvent, Corinne, de bouddhisme tantrique. Mais qu'est-ce que c'est, s'il te plaît ?
Oui, c'est vrai que ça intrigue, ce bouddhisme tantrique. Alors ça désigne des pratiques et des enseignements fondés sur les tantras. Ce sont d'autres textes rituels qui visent une transformation rapide de l'esprit par des méthodes spirituelles que l'on retrouve dans le bouddhisme tibétain, mais aussi dans l'hindouisme. C'est un point commun. Ainsi, le bouddhisme tibétain est majoritairement tantrique, mais le tantrisme n'est pas exclusivement tibétain.
Okay.
Alors, dans le bouddhisme tantrique, les relations sexuelles sont un sujet souvent mal compris et fantasmé, Didier.
Ah.
Et contrairement à une idée répandue, le tantrisme n'est pas une exaltation du plaisir sexuel libre. Et la sexualité, il n'y a qu'une place très marginale. C'est réservé à des pratiques strictement encadrées.
Okay.
Ça va peut-être en décevoir quelques-uns.
Peut-être, qui sait.
C'est vrai.
Mais
voilà, c'est comme ça. Alors, dans certains courants du Vajrayana, il existe des pratiques dites de yoga sexuel, c'est vrai, où l'union sexuelle symbolise l'union de la compassion, principe masculin, et de la sagesse, le principe féminin.
Okay.
L'objectif étant la transformation de l'énergie du désir en éveil spirituel.
Oula.
Voilà. Alors ces pratiques exigent quand même une maîtrise profonde des émotions et de l'énergie dans un engagement éthique très rigoureux.
J'imagine, voilà. C'est bien dit comme ça, ça me va. C'est pas mal.
J'ai
pas
pesé mes mots.
Ouais, je comprends.
Et le Dalai Lama explique que ces pratiques sont sujettes à interprétation et potentiellement dangereuses si elles sont entreprises sans préparation.
Et bien sûr. Forcément.
Bon, je pense qu'on mérite un peu de musique, Didier. Bon, c'est une jolie musique japonaise.
Oui.
Qui va bien avec le sujet, je pense.
Tout à fait. On est parti.
Kirini shizumu sen no hoku.
Alors, Corinne, oui. Après cette petite pause musicale, est-ce que tu peux nous parler maintenant de l'enfer bouddhique dont tu nous as parlé tout à l'heure?
Oui.
Et en quoi est-il différent de l'enfer chrétien? Parce que moi, c'est plutôt mes références.
Oui, alors c'est très différent.
D'accord.
Voilà, c'est très différent de celui qui est décrit dans les religions monothéistes.
Ok.
Et il n'est pas du tout un lieu de punition éternelle ni de jugement imposé par un dieu.
D'accord.
L'enfer bouddhique est un état d'existence, oui, conditionné par le karma, c'est-à-dire la somme des actions, des intentions et des états mentaux de la vie d'une personne.
Ok.
En gros, si on a été une bonne personne, quoi.
Oui, j'imagine un peu, hein, oui.
Alors, avant de décrire l'enfer, je vais revenir sur le samsara, le cycle des renaissances, qui est structuré en 6 royaumes d'existence.
Bien.
Voilà, là, actuellement, on est dans une existence, Didier. On
okay.
est dans un royaume, on va voir lequel.
D'accord.
Donc, 6 royaumes ne sont pas des lieux
oui.
où l'on renaît après la mort, mais des expériences de vie réelles.
Oui, hein, j'essaye.
Et ce sont donc des expériences que l'on peut traverser avant de vivre les enfers, qui représentent les états les plus extrêmes de souffrance physique et mentale.
Ok, bon, alors Corinne, comment arrive-t-on à vivre les enfers, puisqu'il semble qu'il y en ait plusieurs?
Oui, j'ai dit les enfers.
Ben oui.
Alors tout simplement,
en
ayant commis des actions dominées par la haine, la violence,
okay.
la cruauté ou la négation d'autrui.
Oui, jusque-là.
Voilà, alors les textes décrivent généralement 8 enfers chauds et 8 enfers froids, je ne vais pas tous les détailler.
Ah oui, tout de même.
Oui, auxquels s'ajoutent des enfers périphériques en plus. Hein. Ils
Oula.
Sont nombreux. Alors dans les enfers chauds, on ressent le feu, la brûlure et la destruction. Tandis que dans les enfers froids, on ressent le contraire, le gel, l'immobilité, l'isolement absolu.
D'accord.
Alors ces descriptions sont tout à fait symboliques et pédagogiques.
Mmh.
Mais on n'arrive pas en enfer pour avoir désobéi à une règle morale, mais parce que l'esprit est profondément conditionné par la haine et la cruauté.
Ok.
Voilà. Alors les renaissances infernales, parce qu'on appelle ça comme ça,
oui.
sont toujours associées à des actions graves, accomplies, avec intention consciente, comme le meurtre, la torture, la destruction délibérée d'autrui,
oui.
ou encore une haine entretenue et non reconnue.
D'accord.
Alors ce sont surtout l'intensité et la répétition de ces états mentaux qui comptent.
Oui.
On peut faire une mauvaise action
oui.
une fois, ça compte.
J'entends bien
pas.
Qu'il faut quand même y aller.
C'est
quoi.
La dominante. Oui, il faut y aller. C'est ça. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfer n'est pas une punition, c'est la maturation, et c'est ça qui est
ouais.
différent, c'est la maturation et l'évolution d'un esprit devenu lui-même infernal.
Okay.
C'est-à-dire que dans ces personnes-là, dans leur tête, c'est de la boue, quoi.
Mmh, quelque oui, sorte. Petit à petit, ça s'est transformé
c'est
vers
ça.
Ça.
C'est ça. Ils vivent l'enfer de leur vivant.
Oui, bien sûr, je comprends.
Alors, en résumé, un esprit consumé par la haine crée des conditions de sa propre souffrance, tout comme un esprit généreux crée les conditions du bien-être.
Ok, d'accord. On n'est pas dans le côté punitif du
«
tu iras
non,
en enfer si t'as
non,
mal fait ».
Non. Tu vis l'enfer.
Tu vis l'enfer de par ce que tu fais immédiatement.
Exactement. Okay. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait de mauvaises actions, il vit l'enfer de toute façon.
Bien. Bon, si j'ai bien compris du coup,
oui.
avant d'en arriver là, on traverserait 6 royaumes.
Oui, c'est ça.
Alors tu peux nous en faire un peu le détail.
C'est ça. Alors chaque royaume et chaque enfer correspond donc à une existence dans le cycle des renaissances, mais on peut y échapper si on arrive à l'éveil, bien
ouais.
évidemment. C'est-à-dire que là après, on est tranquille, c'est le nirvana, on n'a plus d'autre existence, on est dans un état absolument... je dirais, sans souffrance, sans aucune souffrance.
D'accord.
Alors sinon, on peut stagner dans le même royaume ou en changer selon le karma.
Mm-hmm.
Donc il y en a beaucoup qui restent dans le même royaume.
Mm-hmm.
Voilà. Et au-dessus des enfers, par ordre croissant, je pars des enfers qui sont tout en bas, se trouve le royaume des esprits affamés.
D'accord.
Alors les êtres qui renaissent dans le royaume des esprits affamés souffrent d'un manque perpétuel, comme la faim, la soif et le désir insatiable.
D'accord.
Leur souffrance est liée à l'avidité, à l'attachement excessif et à l'obsession du manque.
Ok.
Au-dessus, juste donc, voilà, oui, c'est deuxième
le
niveau.
Supérieur, oui.
C'est le royaume animal, caractérisé par l'ignorance, la peur et la soumission aux instincts, comme un animal en fait. Hein.
Ouais.
et dans une lutte constante pour la survie. Alors c'est dominé par l'habitude et l'absence de réflexion éthique.
C'est un peu dur pour les animaux ça, mais bon.
Oui, okay. Mais bon,
voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça. Et ces deux royaumes sont quand même beaucoup moins douloureux que les enfers, faut le dire.
Bien sûr.
Mais on y est quand même très vulnérable.
Mais c'est pas encore la panacée, on est d'accord.
Alors vient ensuite le royaume humain dans lequel nous sommes, okay. Didier. Enfin, en tout cas...
D'accord,
je le pense.
On imagine.
On imagine. Oui. Donc c'est au centre du bouddhisme le plus favorable à l'éveil, car il combine souffrance et liberté, intelligence et capacité de choix éthique.
Oui.
La souffrance y est réelle, mais elle peut être comprise et transformée.
Mm-hmm.
Alors au-dessus se trouve, donc au-dessus de notre royaume
bien
à
sûr.
Nous, se trouve le royaume des demi-dieux,
d'accord.
qui est dominé par la jalousie, la rivalité et le conflit.
Okay.
Donc ils vivent dans une agitation constante, incapables de paix intérieure. Mais mm-hmm. ils vivent bien quand même.
Mais,
hein.
J'imagine.
Mais enfin, il y a le royaume des dieux, qui est celui de la bienveillance, de la longévité et du bien-être. Mais attention, cette existence est trompeuse, car les dieux oublient l'impermanence et chutent douloureusement lorsque leur karma positif s'épuise.
Okay.
Alors un point fondamental, hein, les royaumes comme les enfers prennent fin lorsque le karma qui les a engendrés est écoulé. Il faut savoir, donc c'est pour ça que c'est jamais définitif.
Ok, alors ça prend fin, mais alors comment passe-t-on d'un royaume à un autre ?
Alors, le passage se fait automatiquement, Didier.
Ah, ça
t'as
va.
Rien à faire.
Ah, bah c'est bien. Alors.
C'est exclusivement par le karma.
Okay.
Donc, le changement de royaume se produit au moment de la mort, lors d'une nouvelle renaissance.
Mm-hmm.
Alors, à noter qu'une action isolée ne détermine pas la destination, c'est la tendance karmique dominante.
Oui.
Hein, c'est ce que je vous expliquais. Mm-hmm. Comme la colère répétée, la compassion entretenue, l'avidité, la
oui.
sagesse, etc., qui vont orienter. Il faut comprendre que ces royaumes sont expérimentés ici et maintenant.
Oui.
Un même individu, et ça, c'est très important, c'est pour ça que je dis qu'il est réel, peut au cours d'une même journée passer mentalement de l'enfer au royaume humain ou même à un état proche de celui des dieux.
Ah oui.
Voilà.
Ah, j'avais pas vu ça si
oui.
rapide.
Et okay. la renaissance future ne fait qu'amplifier une habitude mentale déjà enracinée. C'est-à-dire qu'on est plus, si on est plus souvent dans le royaume humain,
mm-hmm.
bah on a peut-être des chances d'aller dans les demi-dieux et ainsi de suite.
D'accord. Et alors, peut-on quand même en sortir hein?
Oui, toujours, Didier. Aucun royaume, pas même l'enfer, n'est éternel.
D'accord.
Lorsque le karma négatif ou positif est épuisé, selon
oui,
nos actions,
bien sûr.
On renaît ailleurs et la pratique bouddhiste insiste sur la possibilité de transformer l'esprit dès cette vie. Reconnaître la colère, cultiver la compassion, agir avec lucidité, ça permet de rompre le karma.
D'accord.
Et avant qu'elle naîne, avant qu'on soit amené à avoir des renaissances douloureuses.
Mm-hmm.
Donc on passe d'un royaume à l'autre par cohérence intérieure. Chaque esprit habite le monde qu'il se fabrique. C'est en sens que c'est réel tout ça.
Mm-hmm.
Bah, c'est un résumé quand même.
Oui,
hein.
j'imagine.
Alors, de nombreux maîtres soulignent aussi une lecture psychologique de ces royaumes. Un esprit envahi par la colère vit déjà l'enfer.
Bien sûr.
Un esprit dominé par le désir devient un esprit affamé.
Mmh.
Et un esprit en paix et lucide s'approche de sa libération.
Je comprends bien l'idée.
Voilà. Alors, pour vous aider à comprendre toutes ces notions, je vous conseille la lecture d'un super livre. Ça s'appelle « La dure loi du karma » d'un très grand écrivain chinois
oui.
qui s'appelle Mo Yan.
Okay.
C'est un livre drôle, percutant, qui nous raconte l'histoire de la Chine et aussi l'histoire du karma au travers des vies successives d'un homme sur plusieurs générations. Et ça se passe dans le même village et dans la même maison.
Ah bien.
Il va passer du stade humain au stade animal,
d'accord.
etc.
Oui,
dans la famille dont il est issu. Et
okay.
c'est vraiment, vraiment passionnant.
C'est pas mal parce que c'est quand même des concepts un peu complexes.
C'est ça. Et
donc,
ce livre-là est très éclairant.
Alors, si on est dans la pédagogie, c'est parfait.
Et en plus, ça raconte l'histoire de la Chine, c'est passionnant.
Donc,
et
double
c'est drôle. Et
ah
c'est
bah,
très
bien,
drôle.
Bien, bien. Alors, à voir dans nos lectures futures. Alors, avant d'aller lire, on va repasser maintenant vers le petit déjeuner.
Oui,
pour ça, je vous propose de vous mettre en bouche avec Bisuit. Et alors ça, c'est de Japanese Breakfast. Je ne pouvais pas trouver mieux.
Tu ne pouvais pas trouver mieux, Tito.
Allez, à tout de suite.
I can feel the night passing by like a mistake waiting for
C'était Japanese Breakfast sur Radio Alpa 107.3 et dans Asialogie. Didier, explique-nous pourquoi les petits déjeuners sont différents.
Ah, pourquoi ils sont différents ? Eh ben, en fait, ça s'explique par plusieurs facteurs culturels, en fait, surtout les facteurs culturels. Aujourd'hui, en France, le petit déjeuner est plutôt léger et sucré. Pain, beurre, confiture, céréales avec du lait et une boisson chaude. Il est rapide et différent des repas principaux en Asie. Au contraire, bah, le petit déjeuner, c'est un repas à part entière pour fournir l'énergie nécessaire à toute la matinée, oui. Avec des plats consistants et salés.
Et salés.
Ensuite, les produits agricoles locaux bah, influent forcément beaucoup sur les habitudes. En France, le blé, le lait, le beurre sont abondants, ce qui explique que, bah, la place du pain, des produits laitiers. En Asie, c'est différent. Le riz, les nouilles, les légumes sont des aliments de base et sont naturellement intégrés au premier repas de la journée. Il faut noter aussi bah, que la majorité des Asiatiques ne digèrent pas bien le lait.
Alors, pour quelles raisons, Didier ?
Alors, pour des raisons génétiques et culturelles. Alors, la cause principale, c'est que la lactose intolérance, bah, chez une grande partie de la population asiatique, elle existe parce que la production bah, de lactase, protéine nécessaire pour digérer le lait, diminue fortement après l'enfance. Résultat, bah, le lactose n'est pas bien digéré, ce qui provoque ballonnement, douleur abdominale ou diarrhée. Pardon, mais voilà, c'est ça. Et oui. C'est génétique, hein, parce que bah, dans les régions du monde où l'élevage laitier ne s'est pas développé, il n'y avait pas d'adaptation du corps pour le digérer. Et le fait à l'âge adulte, bah, en fait, à l'inverse, en Europe du Nord et en France, bah, le lait, il fait partie de l'alimentation depuis des siècles.
Vrai.
Et puis bah, là, bah, notre corps s'est développé sur une meilleure tolérance du lactose, c'est simple.
Donc on peut dire que notre mode de vie influence ce qu'on va manger le matin, du coup.
Alors, totalement, oui. Alors, avec plus, en plus, l'existence de très bonnes cuisines de rue bon marché qui permettent de consommer des plats cuisinés très tôt le matin, ce qui est peu courant en France. Hein.
C'est vrai,
l'histoire
c'est dommage.
Sociale explique aussi ces différences. En Asie, il existe moins de séparation stricte hein, entre les repas. D'un point de vue historique, les Français ont depuis longtemps organisé la journée autour de repas fixes, à heure fixe. Cette organisation s'est renforcée à partir du 19e siècle avec l'industrialisation, avec des horaires de travail qui ont imposé des pauses précises, qui a contribué à figer les repas dans des créneaux bien définis.
C'est vrai qu'on mange toujours à la même heure.
Eh oui, et ça, pour ça, on est assez connu pour ça. Le petit déjeuner est rapide et individuel. Le déjeuner et le dîner sont des temps de partage, le plus souvent à table, avec en général plusieurs plats cuisinés. Cette hiérarchisation des repas participe à une certaine idée de l'équilibre alimentaire et de la vie familiale. L'éducation bah, joue également. Hein. Dès l'enfance, on apprend à manger à des heures fixes, à ne pas grignoter entre les repas, enfin si on peut, car c'est associé à une mauvaise hygiène alimentaire. Oui, tout ça est vrai. Cette norme sociale voilà, reste très forte chez nous, et même si elle évolue aujourd'hui, un petit peu, certes.
Alors en France, on mange plutôt froid au petit déjeuner. Enfin, on boit chaud, mais on mange froid.
Oui.
Y a-t-il une raison particulière pour manger toujours chaud en Asie ? Parce qu'ils mangent toujours chaud.
Et là encore, oui. Et c'est lié à la médecine traditionnelle. Manger chaud, c'est considéré comme bon pour le corps pour des raisons physiologiques, hein, tout simplement, car ça favorise la digestion, vu que les aliments chauds sont plus faciles à assimiler. C'est simple. En effet, la digestion nécessite de l'énergie, et lorsqu'on mange froid, le corps doit d'abord réchauffer les aliments et la température avec la température corporelle, quoi. Ce qui provoque de l'inconfort. De plus, manger chaud stimule la circulation sanguine et aide à détendre les muscles du tube digestif, les soupes, les bouillies chaudes hydratent aussi l'organisme tout en apportant de l'énergie, ce qui limiterait les fringales.
Ah ben oui, j'y avais pas pensé à tout ça.
Eh oui.
Alors peux-tu nous donner des exemples de petits déjeuners à l'asiatique ?
Alors allons-y, pour résumer. Donc en Asie, le petit déjeuner est extrêmement varié. Donc en Chine, le petit déjeuner est simple mais nourrissant. On consomme souvent du porridge avec une bouillie de riz accompagnée de légumes, d'œufs ou d'un peu de viande. On mange aussi les fameux baozi, les brioches farcies cuites
j'adore.
À la vapeur. Voilà. On va s'y mettre au petit déjeuner asiatique.
Oui, c'est facile.
Oui, on pourrait. Au Japon, le petit déjeuner traditionnel est très sain. Il comprend du riz blanc, de la soupe miso, du poisson grillé, du tofu, des algues, des légumes marinés. En Corée du Sud, maintenant, passons. Le petit déjeuner ressemble au déjeuner du riz, de la soupe, des ramyun, des légumes fermentés comme du kimchi, qu'on a déjà parlé ici, avec parfois du poisson, de la viande, du tofu. Et pour terminer, au Vietnam, bah, c'est le pho, une soupe de nouilles au bœuf et au poulet qui est couramment consommée dès le matin.
C'est délicieux, le feu.
Voilà.
Bah, les petits déjeuners sont délicieux en Asie. Bah,
ça manque pas d'envie, tout ça.
Et qu'en est-il des boissons?
Alors, qu'est-ce qu'on boit? Les boissons du petit déjeuner sont étroitement liées aussi aux traditions, hein, comme le reste. Elles sont souvent chaudes ou tièdes et rarement sucrées. Dans de nombreux pays d'Asie de l'Est, boire du thé est une habitude ancienne. En Chine, on boit toutes sortes de thé dès le matin, parfois sans manger, afin de réveiller le corps. Au Japon, c'est du thé vert Sencha ou du Genmaicha qui accompagne le repas, tandis qu'en Corée, on consomme des infusions d'orge. Mais comme en Chine, on boit aussi, attention, de plus en plus de café.
C'est
aussi.
Vrai.
En Asie du Sud-Est, les boissons sont plus variées du fait de l'influence de la période coloniale. Tout simplement, au Vietnam, le café fort avec du lait concentré sucré est très populaire. Et de manière générale, les boissons froides, les jus de fruits ou le lait pur sont beaucoup moins fréquentes au petit déjeuner qu'en France. Voilà.
Ah bon, c'est tout son petit déjeuner.
Tour.
Oui, on a fait un petit tour. Bon, Asialogie, c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30, le mercredi à 13h et bien sûr en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes, on le dit jamais assez.
C'est vrai.
Et sur Radio Player maintenant.
D'accord. Bah, en fait, sans limite. Quoi. Vous nous écoutez comme vous voulez, quand vous voulez.
Et on est les seuls à s'appeler Asialogie.
C'est facile de nous trouver du coup. Bon.
C'est très facile de nous trouver.
Zéro SP.
Donc on se retrouve jeudi prochain, ce sera une rediffusion jeudi prochain.
C'est les vacances.
Des petites vacances. Et on se retrouvera donc début mars pour une toute nouvelle émission, toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
On vous souhaite
soin de vous.
Une bonne semaine.
Salut.
À bientôt.